donc au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 7 et jusqu'à la fin du chapitre. Qu'est-ce à dire ? La loi serait-elle péché ? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans loi, le péché est chose morte. Jadis, en l'absence de loi, je vivais. Mais le commandement est venu. Le péché a pris vie, et moi je suis mort. Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mener à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, m'a séduit par le moyen du commandement, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Alors, ce qui est bon est-il devenu cause de mort pour moi? Certes non, mais c'est le péché. En se servant de ce qui est bon, il m'a donné la mort, afin qu'il fût manifesté comme péché et qu'il apparût dans toute sa virulence de péché par le moyen du commandement. Nous savons certes que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas à l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur. Mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Me voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Récapitulons un instant. La liberté chrétienne à l'égard de la loi, loin de favoriser la continuation dans le péché, est incompatible avec elle. La foi, telle que le baptême en expose le sens, unit à Jésus-Christ mort à cause du péché, mort pour détruire définitivement le règne du péché. La foi en Jésus-Christ marque donc une rupture décisive d'avec l'ancienne façon de vivre. Voilà ce que le chapitre 6, que nous avons étudié ensemble, a vigoureusement marqué en dénonçant les caricatures et contresens que l'on fait à propos de la liberté chrétienne. Au début du chapitre 7, l'apôtre poursuit en démontrant que l'affranchissement à l'égard du régime de la loi, de ses commandements placés au-dessus de nous, dont la désobéissance, la violation nous condamnent, que cet affranchissement à l'égard de la loi est strictement légal. C'est la loi elle-même qui stipule la fin de la sujétion, la coupure du lien, quand la mort intervient. Paul s'appuie sur la loi du mariage, qu'il applique analogiquement, mais il pouvait s'autoriser de l'usage très fréquent dans l'Écriture, très ancien, de l'image du mariage pour l'alliance entre Dieu et les hommes. Les critiques, donc, auxquelles Paul pense constamment lorsqu'il écrit, les critiques ne peuvent pas accuser l'apôtre de s'opposer à la loi de Dieu lorsqu'il prêche la liberté chrétienne, lorsqu'il prêche la venue du régime de la foi. Cela est conforme à la loi même. Et l'argument, il l'avait déjà formulé de manière extrêmement brève dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 de l'Épître aux Galates et au verset 19, il souligne que c'est par la loi que je suis mort à la loi. C'est par la loi. Et au verset 18, au verset précédent, il tirait déjà la conséquence de ce « par la loi » en montrant que si l'on remettait en vigueur le vieux régime de type légal, en fait, on se constituait transgresseur de la loi. Les légalistes s'opposent à l'intention de la loi puisque c'est la loi qui met fin au régime de loi. Voilà la logique qu'il avait déjà, au chapitre 2 de l'Épître aux Galates, introduite. À partir du verset 7 du chapitre 7, l'apôtre fait un pas de plus. Il continue sa démonstration en se plaçant maintenant de manière plus décisive sur le terrain de la réalisation concrète de la volonté de Dieu, de la liberté vécue de faire le bien. Au chapitre 6, il n'a pas encore montré comment le régime de la foi, de la liberté chrétienne, apporte la délivrance concrète. Il n'a pas montré que sur ce point, ce régime est supérieur au régime de la loi. Et à partir du verset 7 du chapitre 7, et en comprenant l'essentiel du chapitre 8, ce va être son sujet principal. Il a d'ailleurs annoncé déjà, selon la technique dont il est musé dans tout son développement, par les deux derniers versets du passage que vous avez étudié hier, au verset 5 et au verset 6 du chapitre 7, nous avons comme le résumé de ce qui suit. En effet, quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses, se servant de la loi, agissaient en nos membres afin que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, morts à ce qui nous tenait captifs, nous avons été affranchis de la loi de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre. La section que nous considérons aujourd'hui, au chapitre 7, versets 7 à 25, développe en fait le verset 5. Quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses, se servant de la loi, agissaient en nos membres. Vous repérez déjà dans ce verset 5 certains des termes clés que nous retrouvons dans les paragraphes à examiner aujourd'hui. Il commence donc dans sa grande démonstration principale, les chapitres 7 et 8, par considérer les effets de la loi. Que réussit-elle à opérer quant à l'application effective des normes divines, quant à la capacité, qui est vraie liberté, de faire ce que Dieu veut et nous invite à faire pour notre propre bien, en même temps que pour sa gloire. Il me semble qu'on peut résumer en deux propositions ce que l'apôtre Paul explique dans les versets 7 à 25. Premièrement, connue, la loi excite le péché. Deuxièmement, approuvée, la loi désespère le pécheur. Tels sont les effets de la loi quand on se place sur le terrain que j'ai dit. C'est jusqu'au verset 12 ou au verset 13. Je pense que le verset 13 fait charnière, en fait, que Paul développe la première thèse. Connu, la loi excite le péché. Je n'ai connu le péché que par la loi, dit-il au verset 7, dans la deuxième partie de ce verset. Dans quel sens emploie-t-il le mot connaître ? On pourrait le prendre dans un sens assez faible. Je n'ai pris conscience du péché que par la loi. Ce serait conforme à l'enseignement de l'apôtre ailleurs, dans cette même épître aux Romains, au chapitre 3 au verset 20, au chapitre 4 au verset 15, au chapitre 5 encore au verset 13. L'apôtre dit très clairement que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché en un sens. Il n'y a pas de transgression. S'il y a péché, il ne peut pas être défini comme tel. On ne peut pas en avoir conscience en tant qu'il est péché. Je n'ai connu le péché que par la loi. Jusque-là, le péché est une sorte de malaise vague, de mal-être, mais ne méritait pas encore le nom de péché. Le péché, c'est la transgression ou violation de la loi. Si l'étymologie du terme de péché, aussi bien d'ailleurs le terme hébreu que le terme grec, évoque l'idée de l'échec, du ratage, si le péché, c'est le ratage devant Dieu, pour vraiment mesurer le ratage en cause, il faut la norme. Il faut que Dieu ait révélé, exprimé sa volonté. Mais si cette pensée donc est tout à fait conforme à la théologie de l'apôtre Paul en général, à l'enseignement du Nouveau Testament, ce n'est probablement pas le point qu'il a à l'esprit ici dans le paragraphe que nous considérons. Et justement parce que son souci, c'est de traiter de l'obéissance effective et concrète aux normes divines, non pas tant des prises de conscience, non pas tant des définitions catégorielles, mais de la réalité du vécu. Alors quand il dit « je n'ai connu le péché que par la loi », il s'agit sans doute plutôt de la connaissance expérimentale du péché comme réalité qu'il a éprouvée en lui, dans son propre comportement. Et si nous donnons au verbe connaître qu'il emploie ce sens, que je crois le sens mis en œuvre ici, alors la thèse de l'apôtre est très claire. Lorsque le commandement, la loi divine, s'adresse à l'homme, au lieu de l'aider à obéir mieux et à réaliser effectivement le bien, cela au contraire excite le péché. Le péché en est comme accru dans sa virulence, le péché triomphe à ce moment-là plus aisément de toutes les velléités de faire autre chose qui pourrait se trouver en l'homme. La loi a servi de moyen, dit l'apôtre, pour la production de convoitises coupables, pour la séduction du péché lui-même. C'est ce que l'apôtre dit au verset 8. Saisissant l'occasion, le péché a produit toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Le péché m'a séduit par le moyen du commandement. Et peut-être encore plus fort, au verset 9, jadis, en l'absence de loi, je vivais. Mais le commandement est venu et le péché a pris vie. Un péché quasiment mort, il était présent. Hein. L'apôtre Paul ne considère pas qu'il n'y ait pas eu de péché. Mais le péché qui était là, comme mort, latent, tout à coup s'est réveillé, a pris une soudaine vigueur lorsque le commandement « tu ne convoiteras pas » s'est adressé à l'homme. Et ainsi, conséquence paradoxale, la loi de Dieu, le commandement divin, qui dans le Pentateuque, par exemple, sont décrits comme la voie de la vie, ont conduit effectivement à la mort. Moi, je suis mort. Je suis mort, dit l'apôtre, du fait de cette excitation du péché produite par la loi. C'est l'effet d'un mécanisme psychologique que nous connaissons bien, que M. Nicole évoquait aussi hier soir au cours de la conférence et qui est particulièrement évident dans le cas de la convoitise. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre choisit le 10e des 10 commandements parce que le désir est tout spécialement stimulé par une prohibition, par une interdiction. Il semble qu'il y ait en tout cas le simple fait que notre attention se fixe sur l'objet qui devient défendu et qu'ainsi, le désir s'y accroche plus aisément. C'est d'ailleurs à cause de ce type de mécanisme qu'il vaut mieux, dans l'éducation, ne pas s'en tenir aux commandements négatifs, aux interdictions. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand on ne cesse de répéter cela aux enfants, on inscrit en quelque sorte dans leur champ de vision précisément la chose à ne pas faire. Elle les fascine et il faut tenter, il faut bien aussi des interdictions, hein, mais il faut tenter de présenter les choses sous forme positive. Voilà ce que tu dois faire, que l'image de la chose à faire s'impose davantage. Mais il y a plus que ce mécanisme psychologique qui est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit des convoitises. Mais Paul ne prend la convoitise ici que comme un des exemples. Il parle de manière très générale de la loi et des commandements comme ce qui excite au péché. Il y a certainement beaucoup plus que cela. Le commandement entraîne tous les effets qui sont ici décrits parce qu'il révèle le péché, il le manifeste dans sa virulence, c'est ce qu'explique le verset 13, afin qu'il fût manifesté comme péché, qu'il apparût dans toute sa virulence de péché, littéralement, qu'il se montre excessivement pécheur, hyperboliquement pécheur. Voilà ce qu'opère le commandement. Latent, le péché semble assez anodin. Oui, le péché est là. Mais ce qu'il représente, la folle, méchante, hideuse volonté d'indépendance à l'égard de Dieu, qui est une haine ingrate à l'égard du Créateur bienfaiteur, cette folle volonté d'indépendance peut se déguiser très bien en indifférence polie, éventuellement assez altruiste. Dans la situation de latence, c'est ce qui peut arriver. Mais que vienne le commandement, que Dieu exprime sa revendication de Seigneur en disant « Tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », alors cette volonté se démasque, la prétention de l'homme à être son propre maître et à n'avoir ni Dieu ni maître se démasque. « Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux ». Voilà comment le péché dévoile par le moyen du commandement sa virulence de péché, se révèle pour ce qu'il est dans son fond. Paul fait-il allusion en disant « je » et en parlant au passé à une expérience personnelle en la matière? Se réfère-t-il à la bar mitzvah, vous savez, la transition entre l'irresponsabilité de l'enfance et les responsabilités que les enfants juifs connaissent à 13 ans, il est impossible de le savoir. Nous ne pouvons pas reconstituer la biographie de l'apôtre d'une façon qui nous permet de dire « oui, c'est comme ça que ça s'est passé ». L'insouciance, je vivais sans avoir conscience du péché, et puis le commandement est venu, et alors je suis mort. Il n'est pas du tout certain que ce soit arrivé à 13 ans à Shaul, Saul de Tarse, comme il s'appelait. D'autres ont imaginé que l'apôtre évoquait ici la chute de l'humanité en Éden, que c'est le récit de Genèse 3 qu'il a à l'esprit. Il est question de séduction par le péché, il est question de convoitise, et plusieurs se sont dit, oh, il doit penser à Adam et Ève séduits par le désir du fruit défendu et ainsi entraînés dans la culpabilité et la mort. Je vous avoue que je pense cette allusion assez douteuse. Ce n'est pas tant l'utilisation du « je » de l'apôtre, parce que cela pourrait se concevoir. L'apôtre pourrait dire en Adam, qui est représentant de l'humanité, cela m'est arrivé, je. Mais il me semble que les autres différences que l'on peut constater sont de grande importance et doivent écarter plutôt l'idée que j'évoque. En Éden, il n'y avait pas de péché latent. C'est une œuvre très bonne qu'avait faite le Seigneur et suggérée qui avait quand même déjà là un péché qui n'avait pas encore pris vie, il ne s'était pas réveillé, mais qui était là. Il ne me semble pas que ce soit conforme du tout à la lettre et ni à l'esprit du récit de la Genèse. Ensuite, on peut remarquer aussi que dans l'histoire de la Genèse, il n'y a pas de période sans commandement. Il n'y a pas cette dualité des temps qu'évoque l'apôtre. Autrefois, je vivais sans commandement, bien tranquille, le péché était latent, et puis le commandement est venu. Nous voyons au contraire dans la Genèse que le commandement est donné à l'homme d'emblée. Même dans l'ordre du récit, c'est avant la création de la femme que le commandement est formulé. Et troisième différence qui me paraît aussi intéressante, il n'y a rien qui proscrive explicitement et spécifiquement la convoitise dans le texte de la Genèse. C'est de manger le fruit qui était défendu, mais non pas de le convoiter. Or, si l'apôtre choisit le commandement qui porte sur la convoitise, il est donc assez peu probable qu'il ait spécialement voulu se référer à la Genèse, Genèse 2 et 3, même si la convoitise a joué un rôle ensuite dans la tentation et le péché de l'homme et de la femme. Alors je crois que ces raisons sont suffisantes pour que nous écartions l'idée que Paul se réfère plus spécialement ici au texte de la Genèse. Son souci, qui est évident, plutôt que de chercher entre les lignes des choses qu'il n'a pas dites, voyons ce qu'il a dit. Son souci évident, en accompagnement de la communication de sa thèse principale, c'est de prévenir ce qu'on appelle l'antinomisme. J'utilise un mot barbare, mais je l'explique aussitôt. Il s'agit de la dépréciation de la loi comme telle. L'hostilité à l'égard de la loi. Loi se dit nomos en grec, alors antinomisme, vous voyez comment le mot se construit, c'est très simple. Tout en expliquant que les commandements de Dieu, la loi de Dieu, au lieu de m'aider à obéir, au contraire, m'ont excité au péché, tout en expliquant cela, l'apôtre a très grand souci de marquer que le mal ne vient pas de la loi et du commandement. La loi serait-elle péché? Certes non. Toujours cette expression emphatique dont je vous ai déjà parlé, pensée intolérable, c'est exclu totalement. Certes non, la loi n'est pas péché. Et encore, ainsi, verset 12, la loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Et encore, au verset 14, c'est le début de la section suivante, mais nous pouvons aussi nous référer à cette formulation, la loi est spirituelle. Il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église des gens qui se sont mépris et qui, à cause de ce que l'apôtre dit de l'abrogation du régime de la loi et du rôle qu'elle a pour exciter le péché, alors ont cru pouvoir dénigrer la loi. Il y a eu des antinomiens, considérant que pour le chrétien, alors il n'y avait plus du tout à considérer la loi, qu'elle n'avait plus aucun rôle pour lui, parce qu'elle était, dans le fond, l'expression d'un régime spirituel inférieur. Ce n'est pas la pensée de l'apôtre. Il a très grand souci de montrer que la loi en elle-même est sainte, et spirituelle même, spirituelle. Et que c'est l'occasion qu'elle a été pour le péché de produire tous ces effets qui a conduit aux conséquences funestes qu'il décrit. Alors, il me semble que c'est un point à souligner en notre temps. Il y a pas mal de gens, et même de théologiens connus, qui se fourvoient dans l'impasse antinomienne ou antinomiste, on dit les deux, je crois, aujourd'hui. Des gens qui s'imaginent que dès qu'on maintient que le commandement est saint, juste et bon, que la loi de Dieu, en tant qu'expression de sa volonté, est une norme qu'il faut considérer, il y a des gens qui crient aussitôt au légalisme. Mais ce n'est pas du tout ça le légalisme. Il ne faut pas confondre l'égalité et légalisme. Il ne faut pas confondre respect de la loi de Dieu en tant qu'elle exprime ce qui est le bien et puis le régime de la loi duquel nous sommes libérés. Ce régime pour lequel la loi demeure extérieure et incapable de donner l'énergie du changement à l'homme pécheur, l'excitant plutôt parce qu'il reste inchangé au fond de lui-même et se sert des commandements de Dieu pour affirmer son indépendance. Ce légalisme qui est abrogé, ce n'est pas la reconnaissance de la validité de la loi de Dieu en tant qu'elle exprime ses commandements. Voilà ce que, je crois, l'insistance de l'apôtre doit nous rappeler aujourd'hui. Mais la loi ne se contente pas d'exciter au péché. Elle a un deuxième effet que les versets 13, 14 à 25 exposent en détail. Approuver, la loi désespère le pécheur. Au verset 13, l'apôtre relance l'intérêt de la lecture, l'attention des auditeurs de la lecture publique de son épître, d'une manière qui correspond au verset 7. Il nous montre bien donc qu'il aborde un point suivant. Et le passage est notoirement difficile. Il y a d'abord l'utilisation dans des sens différents du même mot « loi ». Parfois, le mot désigne la loi divine, la loi de Dieu, comme c'était le cas dans les paragraphes précédents. Cela ne nous surprend pas. Mais, par exemple, au verset 23, ce n'est plus ça du tout. Dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. La loi que ratifie l'intelligence de celui qui parle, c'est la loi divine. Ça, je crois que c'est assez clair. Mais l'autre loi, qu'est-ce que c'est? L'autre loi, c'est une servitude qu'il découvre en lui-même, qui l'empêche d'obéir à ce que Dieu lui a dit. Il y a un autre sens pour le mot loi. Et nous avons encore un autre usage qui est un peu intermédiaire au verset 21, lorsqu'il dit « Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. » Là, ce n'est ni la loi de Dieu, ni la contrainte qu'il découvre dans ses membres, les chaînes spirituelles qui le lient, mais c'est un état de fait, une situation devant laquelle il est placé. Je découvre ce fait. La note dans le Nouveau Testament de la traduction écuménique de la Bible est d'ailleurs tout à fait exacte sur ce point. Le mot « loi » est ici employé dans un sens banal et atténué. « Je constate donc cette loi » signifie « De fait, les choses se passent constamment ainsi. » Mais vous voyez, il ne nous simplifie pas les choses, l'apôtre, en utilisant le même mot dans des sens ainsi différents. Et puis, il avoue lui-même sa perplexité. Il dit, j'y comprends rien. J'y comprends rien à ce qui m'arrive, à ce que je fais. C'est au verset 15. Perplexité qui procède de la complexité de la situation. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. C'est moi qui le fais. Non, c'est pas moi. Alors, de nouveau, il nous est assez difficile de nous y retrouver là où Saint Paul perdait son latin. Et puis, tous les paradoxes qui se trouvent là. Ce qui est clair, c'est qu'au verset 25, nous avons l'amorce du grand virage qui est pris ensuite au chapitre 8, avec le cri du début du verset, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur », et puis ensuite, un petit résumé de ce qui a précédé. Bon, il récapitule. Après avoir lancé cette parole magnifique, « Grâce soit rendue à Dieu », il dit, bon, alors, revenons à ce que nous avons établi. « Ainsi donc, me voilà à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. » Les débats dans l'interprétation de ce passage difficile se sont concentrés sur l'identification de celui qui parle. En gros, deux thèses se sont affrontées et continuent de s'affronter encore aujourd'hui dans le champ des études bibliques. La thèse qui voit ici un homme inconverti décrivant les affres de son combat spirituel, alors qu'il est privé des secours de la grâce de Dieu, et la thèse qu'il voit ici, au contraire, le chrétien, l'apôtre Paul, faisant part de ses luttes de chrétien, à cause de tout ce qui subsiste de liens charnels, de vestiges de la vieille nature, dans l'homme même régénéré, même sanctifié. Et alors, dans cette grande antithèse, vous avez des variantes, vous avez la possibilité de serrer de plus ou moins près l'autobiographie de l'apôtre Paul. En gros, la première grande interprétation, celle qui voit ici la description des combats de l'inconverti, nous comprendrons en utilisant un tel terme, c'est l'interprétation des pères grecs, c'est l'interprétation de la plupart des exégètes modernes. Les exégètes sont les spécialistes de sciences bibliques. La seconde interprétation, au contraire, qui voit ici l'apôtre décrivant son expérience d'apôtre au présent, disant « je », c'est celle de saint Augustin, pas dans la première phase de sa vie, mais dans la deuxième, des réformateurs et d'un certain nombre de dogmaticiens, spécialement. Les dogmaticiens sont les spécialistes de la théologie systématique, de la doctrine chrétienne. C'est souvent de cette façon que se sont partagées les opinions. Je crois qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a des indices qui vont dans les deux sens. Que les adeptes des deux thèses, les avocats des deux positions, ont les uns et les autres des munitions. Que lorsque l'apôtre dit « je suis vendu au péché », vendu, le Nouveau Testament de la Tobe développe un peu en disant « je suis vendu comme esclave au péché », il est difficile d'attribuer cela à un chrétien parlant en tant que tel. Un chrétien qui dirait « je suis vendu au péché », ça paraît quand même quelque peu surprenant. Il est sûr, à l'opposé, qu'il est aussi très, très inhabituel sous la plume de l'apôtre, il serait très inhabituel sous la plume de l'apôtre, que d'un inconverti, ils disent « je me complais à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Car au cœur de l'inconverti demeure cette hostilité foncière à Dieu. Alors, comment choisir entre ces thèses? Vous pourrez trouver dans les commentaires qui sont à disposition sur la table de librairie, et puis les commentaires qui n'y sont pas, il y en a d'autres encore, bien sûr, dans les bibliothèques. Vous pourrez trouver les arguments des uns et des autres. Moi, je n'ai pas le temps maintenant d'entrer dans le détail. Je signale que les commentaires que vous avez ici, comme les livres en général, sont les uns écrits par des auteurs évangéliques, d'autres qui sont écrits par des auteurs d'une autre ligne doctrinale, qui ne seraient pas d'accord avec celle des GBU, forcément, mais qui paraissent des instruments de travail utiles. Alors, vous en avez qui traitent de la question. Vous avez le commentaire de Calvin, que je recommande chaleureusement, bien sûr. Vous avez le petit livre de John Stott, qui est un commentaire précisément des chapitres que nous considérons. Vous avez les commentaires de Karl Barth, le monument dogmatique du siècle. Je parle de Karl Barth plutôt que de ce commentaire spécialement. Mais vous avez le commentaire d'Alphonse Maillot, qui est tout récent, et qui d'ailleurs utilise beaucoup un commentaire allemand de Kiesemann. Vous avez le commentaire de Franz Lennard, qui enseignait à l'université de Genève. Vous trouverez des arguments sur la question. De quel côté est-ce que je penche moi-même? Je l'explique dans un article qui est apparu dans Ictus, mais il y a longtemps, il n'est pas sur la table. En 72, en novembre-décembre 72, j'ai écrit un article spécialement sur ce point. Moi qui suis dogmaticien, moi qui suis augustinien et calviniste, je penche plutôt pour la thèse quand même opposée. Tout bien pesé et influencé par certaines des raisons de Lénard en particulier, Je conclus que s'il fallait considérer le passage comme une description d'une situation concrète, ce serait plutôt quand même de l'inconverti qu'il serait question que du chrétien. Ce qui m'impressionne le plus, je le dis très brièvement, c'est que Paul s'étudie, me semble-t-il, ce que Lénard fait percevoir, pour ne pas introduire de termes concernant la réalité chrétienne. Ce n'est pas le combat de la chair contre l'esprit, comme en Galates 5. C'est la chair contre la loi de l'intelligence. L'esprit, il ne va intervenir qu'à partir du chapitre 8. Il me semble que Paul fait vraiment un effort systématique pour ne pas utiliser de termes qui évoqueraient ce qui caractérise l'existence chrétienne. Et la deuxième raison, c'est celle que j'ai déjà en fait insinuée. Il me semble clair que l'apôtre développe au chapitre 7 le verset 5 du même chapitre 7, qui concerne l'existence dans la chair sous la loi. Mais tout en avouant ce choix, que je penche de ce côté, je suggère en même temps qu'on a mal engagé le débat et que le propos de l'apôtre n'est pas de décrire purement et simplement un conflit tel qu'il se vit concrètement, soit chez l'inconverti, soit chez le chrétien. Que son propos est plutôt de nous présenter sous une forme dramatique et pathétique une thèse théologique fondamentale. Il construit une sorte de modèle théologique pour nous faire bien comprendre les choses. Il s'agit de l'efficacité de la loi. Mettons les choses au mieux, en quelque sorte, nous dit-il. Imaginons que la loi obtienne tous les faits qu'elle est susceptible d'obtenir en tant que loi. Elle ne peut conduire au mieux donc qu'au désespoir. Elle peut convaincre la conscience. Elle peut, éclairer si fort l'intelligence de l'homme qu'il sera obligé de dire « Oui, d'accord, je reconnais que la loi est bonne, je reconnais. » Donc, si on se place dans la situation optimale, qui en général n'est pas atteinte, en général l'inconverti refuse cette conviction, ne se laisse pas éclairer par les commandements de Dieu, les détourne, vous voyez. En général, concrètement, dans sa biographie, ça ne se passe pas comme ça. Mais si on met les choses au mieux, si la loi va jusqu'au bout de son pouvoir d'éclairage, à quoi est-ce qu'on aboutit? On aboutit quand même seulement au désespoir. Parce que cette loi que mon intelligence donc réussit à capter, elle se heurte à une autre loi, à une servitude qu'elle est totalement impuissante à briser. L'autre loi qui est dans mes membres, qui est là. Je ne fais pas le bien que je voudrais. Alors cette contrainte, je crois que le terme d'aliénation lui convient extrêmement bien. Et que l'apôtre montre avec finesse ce qu'il en est de l'aliénation, de la tyrannie que le péché exerce sur nous. Dans l'aliénation, on n'est pas son propre maître. Dans l'aliénation, on agit, bien sûr, on est responsable. Paul nie jamais la responsabilité de l'homme. Mais en même temps, on n'est pas vraiment soi-même. Si je fais le mal que je ne veux pas, que je voudrais ne pas faire, j'ai quand même, parce que la loi m'interpelle, je le sens. Si je fais ce que je voudrais ne pas faire, je montre bien que je ne suis pas libre, que je ne suis pas moi-même. En un sens, ce n'est pas moi qui agis. Je suis agi par la puissance du péché qui est en moi, par cette autre loi qui est dans mes membres. C'est cela qu'exprime l'apôtre, le paradoxe de l'aliénation, d'une servitude spirituelle qui n'abolit pas la responsabilité. Si c'était une contrainte qui s'exerçait extérieurement à nous, alors oui, nous serions plus responsables. Hein, mais là, nous continuons d'être responsables parce que c'est en nous. Alors, il faut là faire attention à un malentendu qui a produit des conséquences catastrophiques dans l'histoire de l'Église. L'apôtre oppose à la loi de l'intelligence, et justement parce qu'il pense à l'efficacité maximale et optimale de la loi, elle peut Elle peut toucher l'intelligence. On est obligé de reconnaître, oui, c'est ça. Parce qu'il parle donc de la loi comme saisissant l'intelligence, obligeant l'intelligence à l'adhésion, il oppose alors la loi qui est dans les membres. Et il parle de la chair, il parle du corps. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et du coup, certains ont cru que Paul reprenait à son compte le dualisme, non seulement d'une certaine tradition grecque, mais plus spécialement du gnosticisme, de ces sectes qui ont pullulé au début de l'ère chrétienne, qu'il attribuait finalement à la matière, comme telle, la responsabilité de nous attirer vers le mal, qu'il associait de manière très étroite la corporalité, toute la vie des sens avec le mal. Et il en est résulté dans toute l'histoire chrétienne, vous le savez, une répression du corporel, une surrépression du corporel, une attitude fausse, divisant l'esprit du corps et méprisant le corps avec mortification, avec dénigrement du mariage, etc., qui a fait les ravages que vous n'ignorez pas, à coup sûr. Alors il est important de nous rendre compte que ce n'est pas ça du tout le sens de l'apôtre. D'abord pour le mot chair, il faut bien se rendre compte que le mot chair ne concerne pas seulement les parties charnues de notre individu. Que le mot chair, sous la plume de l'apôtre Paul, très souvent en tout cas, parce qu'il y a des usages un peu divers, mais désigne toute notre nature, y compris ce que nous appellerions des tendances spirituelles en nous. Le pharisaïsme, d'après l'apôtre, Philippiens 3, c'est une expression de la volonté de la chair. Le pharisien, parce qu'il cherche sa propre sécurité, qu'il se campe dans un orgueil subtil face à Dieu, dont il utilise la loi pour mériter lui-même quelque chose devant Dieu, il se montre charnel. Dans tout son ascétisme, il est charnel. Alors le mot chair, vous voyez, évoque beaucoup plus que le corps. Le corps, pour l'apôtre Paul, inclut, je crois, aussi toute l'existence publique extérieure, tout le personnage public, les moyens que nous avons d'être ce que nous sommes dans le monde. C'est en quelque sorte notre expression dans le monde. Et s'il insiste tout spécialement sur le corps, me semble-t-il, ce n'est pas que le corps soit la cause du péché, soit la source de cette servitude dont il parle, mais parce que c'est dans le corps qu'elle se manifeste de la manière la plus évidente et incontestable. Du fait de la perversion et du détraquage radical de notre nature par notre rupture avec Dieu, quand nous nous sommes détournés de lui, les hiérarchies internes, les fonctionnements heureux des éléments qui nous composent se sont détruites, renversées. Et du coup, nous avons tous bien de la peine à tenir en bride, comme dit Jacques, tenir en bride notre corps. Nous avons tous une difficulté particulière à maîtriser notre corps. Et personne n'y arrive parfaitement, comme dit Jacques, spécialement. Ce qui se montre aussi dans les oscillations entre l'idolâtrie du corps et le mépris du corps, la haine du corps. Justement parce que nous ne maîtrisons pas cela. Alors l'apôtre Paul souligne cette loi qui est dans nos membres, ce corps de mort, parce qu'il sait que tout le monde devra en convenir. Oui, là, il y a l'évidence d'une servitude spirituelle que nous ne sommes pas capables de rejeter, de briser tout seul. Alors il y aurait des choses très intéressantes à creuser, mais je n'ai pas du tout le temps de le faire. Par exemple, les homologies éventuelles avec les thèses psychanalytiques. Dans mon article de 72, là, je me réfère à un article remarquable, une étude remarquable d'un professeur de Louvain, Antoine Vergotte, à ce propos. Mais je ne vais pas me pencher maintenant sur ce sujet. Je pense que la question qui nous reste à considérer pour conclure, Et la question suivante, si la loi excite au péché, conduit à la mort, bien sûr, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute, mais c'est comme ça que ça se passe quand même. Si la loi, au mieux, ne peut nous conduire qu'au désespoir, alors pourquoi Dieu nous a-t-il révélé sa loi? Pourquoi Dieu nous a-t-il communiqué ses commandements? Le but de Dieu est-il de nous désespérer? Et en un sens, je répondrai oui, exactement. Il n'y a pour nous de guérison possible, il n'y a pour nous de libération possible que si nous commençons par désespérer. Tant que nous croyons que ça peut aller quand même comme ça, qu'un cas, coup-ci, coup-ça, alors nous restons dans nos chaînes, nous restons les esclaves de cette autre loi. Il faut que nous en venions à discerner que nous ne sommes que des misérables, incapables de nous libérer, pour qu'autre chose puisse se passer, pour que cette autre chose fasse jaillir le cri du verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Luther disait de la foi que c'est un désespoir consolé. Une magnifique définition de la foi. Désespoir consolé. C'est pour ça que malgré ses effets, le Seigneur a donné sa loi et le régime de loi. Mais il ne s'agit pas d'en rester là. Il s'agit d'aller jusqu'à la connaissance expérimentale, elle aussi, de ce qui dépasse la loi, de ce qui nous est développé au chapitre 8 et que vous étudierez dans les groupes demain matin.